Et là, j'ai vraiment paniqué. J'ai paniqué et j'ai eu un énorme trou, une espèce de chute de l'étincelle qui d'habitude est là et la flamme sur laquelle je me repose pour m'engager. Mais là, je n'y croyais plus. Je ne voyais plus comment on allait avancer. Tout ce que j'avais pu faire comme expérience, comme stage, je me disais, mais de toute façon, à côté de tout ce qu'il y a à faire, ça ne sert à rien, c'est pas la bonne manière. Je lisais tout, version rouge, ça ne va pas.
Hello, c'est Maëlys, je suis responsable de communauté aux Pépites Vertes. Je vous accueille aujourd'hui dans Au Cœur, un podcast imaginé suite à mes différentes rencontres avec les pépites de ce monde et les pépites en devenir. À leur contact, j'ai pu vivre l'importance de discuter ensemble du vécu de l'engagement et des émotions que l'on traverse lorsqu'on s'éloigne de la voie toute tracée. Dans Au Cœur, j'invite des jeunes qui ont fait le choix de l'engagement professionnel pour répondre à des émotions qu'ils prenaient aux tripes. Ces pépites nous racontent leur histoire et leurs questionnements. De la colère et l'émerveillement, du renoncement à l'engagement. Bonne écoute! Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir la pétillante Claire, étudiante en master de management. La vie de Claire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, mais une énergie sans faille pour les affronter. On échange sur son engagement, d'abord étudiant puis professionnel. Elle nous partage les questionnements qu'elle a affrontés et les réflexions qu'elle a menées sur sa place dans la transition. À travers son vécu, on évoque notamment l'épuisement militant, l'éco-anxiété et les stratégies pour aligner sa vie à ses valeurs. Je vous laisse la découvrir. Hello Claire, comment ça va ?
Coucou Maë ! Eh ben, ça va très bien, et toi ?
Ça va très bien, merci. Je suis super contente de te recevoir dans Au Cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec grand, grand plaisir.
Alors Claire, toi, tu as un profil un peu particulier comparé aux autres personnes qui passent... au micro des pépites, puisque tu es encore étudiante. Et puis, double particularité, tu es aussi très proche des pépites vertes, puisqu'il fut un temps, nous étions une association et tu as été bénévole aux pépites. Est-ce que tu peux un peu te représenter rapidement, s'il te plaît ?
Tout à fait. Je suis encore étudiante pour ma dernière année d'études, en ce moment même à Milan. Et j'avais croisé la route des pépites vertes il y a, je crois, 3 ans maintenant, quand j'avais commencé mon master à Sciences Po, et j'ai eu un petit peu de mal, et je crois que j'ai accepté le fait que je ne lâcherai jamais les pépites vertes,
oui.
Et donc ça fait 3 ans que je navigue dans tout ça, et fin juin, je serai diplômée, donc ça y est, plus étudiante.
Et quel sera ton diplôme, du coup ?
Tu poses évidemment là une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre, vu la longueur du titre du diplôme.
Tu n'as pas mon marqueur.
Alors, pour faire simple, management des entreprises et des organisations publiques avec une petite touche de sustainability.
Donc, comme tu le sais, dans ce podcast, le propos de ce podcast, c'est de discuter de l'engagement et des émotions qui nous traversent dans tout ce parcours d'engagement. Donc, on va un peu remonter le fil de ta vie. Et alors avec toi, je crois qu'on va retourner au collège, c'est ça ? Et on va parler d'huile de palme, de déforestation et de chaîne de SMS. Ça,
allez,
on adore. Est-ce que tu peux raconter un peu ?
Complètement. Une de mes meilleures anecdotes. Il faut absolument que ma meilleure pote écoute ce petit passage juste pour la dédicace que je lui fais. Donc, collège Georges Mandel à Issy-les-Moulineaux avec ma meilleure copine. On est toutes les deux hyper sensibles à la question de l'huile de palme. Je ne sais plus comment, je ne sais plus si c'est elle qui a commencé avec cette histoire ou pas. Mais on est tombées toutes les deux sur cette espèce de spot de sensibilisation, dont je ne me rappelle plus bien si c'est le WWF ou une autre... le WWF ou une autre ONG. Mais en tout cas, c'est une pub détournée pour les KitKat. Au moment où on commençait à parler un peu de la déforestation et où donc quelqu'un qui ouvre son petit KitKat trop sympa machin et là il croque dans un énorme doigt de gorille tout ensanglanté, absolument merveilleux. Donc nous on trouve ça dégueulasse et en même temps on se dit mais tiens, ce serait pas une super idée d'envoyer ça par chaîne de SMS à tout notre carnet d'adresses histoire que les gens soient dégoûtés qu'ils achètent plus de KitKat avec de l'huile de palme. On s'est totalement lancé dans cette opération qui n'avait pas vraiment je pense l'ampleur de ce qu'on espérait, mais c'est pas grave. Donc on avait un peu spammé tout notre carnet d'adresses à coup de vidéos KitKat. Ouais, c'est ma première grande action militante.
Trop bien. Donc, à l'époque, c'était un peu toi, tu m'avais dit, toi et ta meilleure amie contre le monde. Et en fait, c'était pas super simple. Tu m'as parlé d'isolement, tu m'as parlé de rejet même, et d'un peu l'impression d'être à milieu de toutes les personnes qui t'entourent. Donc, comment tu vis, en fait, ce premier pas dans l'engagement ?
Alors, effectivement, à ce moment-là, donc, je pense que je suis passée par cette étape que pas mal de gens peuvent avoir, environnement ou pas, le fait d'être juste à deux avec un ou une meilleure pote et de se sentir complètement isolée. Il y avait un gros décalage entre nous et le reste des collégiens à ce moment-là sur plusieurs points, mais notamment sur la préoccupation environnementale, qui, moi, était un petit sujet que je dirais plus, que je qualifierais plus d'émotionnel que de très rationnel. Enfin, je me souviens que je réfléchissais en termes de ça me rendait triste de savoir que les ours polaires allaient disparaître parce que la banquise était en train de fondre. Ça me fendait le cœur de voir les images dans les documentaires. Et c'est plutôt ces choses-là qui me parlaient. Et alors autour de nous, non. Enfin, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet total. Ça n'avait, mais enfin, il y avait vraiment juste aucun moyen de parler de ça. Donc j'avais déjà l'étiquette intello avec ma meilleure pote à cet endroit-là, à cette époque-là. Donc en plus, si tu rajoutais le côté « mais l'environnement, c'est important », enfin là, c'était tu signes ton aller simple pour l'exil. Donc
je pense que... L'exil social collégienne.
Ah mais l'exil social total. Et je pense qu'à ce moment-là, cette espèce de petite action militante et le fait d'avoir toutes les deux le début de construction de cet univers de ok, on est consciente qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème, c'était le moyen d'ancrer notre référentiel et notre appartenance à, en tout cas à ce monde-là, à ces personnes-là conscientes, et de commencer à faire un peu notre radeau au milieu de cet océan de gens qui n'avaient rien à faire. Et on se sentait assez isolés et assez perdus dans tout ça. Et en fait, la manière de se dire « Ok, c'est pas juste nous deux qui sommes un peu perchés », ça a été à ce moment-là d'en parler à nos parents respectivement. Et je sais que j'ai commencé à faire mon lobbying contre l'huile de palme à la maison et à dire « Faut qu'on arrête d'acheter les gâteaux avec de l'huile de palme ». Et donc, c'était un peu le point qui me permettait de faire le pont et de se dire « Ok, il n'y a pas que des gens qui n'en ont rien à faire au collège, il y a des gens au-delà de ça et ça va au-delà de l'isolement que je peux ressentir dans cet endroit-là. »
Et alors, à partir de là, comment ça évolue, du coup ? De cet isolement, comment toi, tu vis tout ça ?
Comment je vis tout ça ? Alors, disons que cet état d'esprit-là, enfin, la bulle collège, elle reste relativement stable. Enfin, il n'y a pas de grands changements, ça reste pas mal. Enfin, mon engagement reste pas mal. Déjà connectée à ma meilleure amie, on est toutes les deux dans cet esprit-là. On partage cet engagement toutes les deux et on le garde. Et puis c'est très personnel, c'est très, je dirais presque, c'est même pas tant théorique, mais c'est plus spirituel en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que on a cet arbre dans un parc qui est pour nous un peu notre symbole de ralliement. Et du coup, on va se promener, on va voir cet arbre et c'est notre arbre. Et c'est un peu le pilier qui représente ce truc-là. Et maintenant, quand je passe devant, ça me fait trop rire parce que je me dis, vraiment, on avait besoin de se rattacher à ce truc-là parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mais c'est resté dans cette sphère émotionnelle-là. Au lycée, on n'était plus dans le même, on n'était plus dans le même établissement. Et c'est resté dans ce champ émotionnel, un peu spirituel et pas concret. J'ai pas eu d'engagement particulier parce que je m'étais juste concentrée sur moi, mes études, le fait d'avoir des bonnes notes pour ensuite pouvoir faire une bonne école, une bonne université. Donc c'est resté très, très en fond de tâche. C'est-à-dire que j'ai pas trop creusé le sujet, il n'y avait pas de question d'être végétarienne. Dans ma famille, c'était pas trop un sujet, donc ça s'est vraiment cantonné à pas acheter d'huile de palme, et après, juste moi et ma passion et mon émerveillement devant les paysages et la nature, mais c'est resté très stationnaire pendant assez longtemps. Et j'ai un peu mis ça de côté. Je me souviens me dire, pour l'instant, je me concentre sur mes études, sur avoir des bonnes notes, un bon dossier, Et je sais qu'une fois que j'aurai fini, une fois que je passerai l'étape suivante à l'université, là, je vais commencer.
Ouais, donc tu as eu quelques années de pause dans l'action, on va dire. Et après, tu rentres en post-bac. Et là, donc en post-bac, comme on a compris, tu es en master. Donc, tu as réalisé une licence et un master. Ouais. Et là, par contre, il se passe carrément plein de choses pour toi. Tu passes par plusieurs étapes. Ton engagement, il fait plein de vagues, notamment en licence, de ce que j'ai compris. C'était beaucoup, tu t'engages beaucoup en tant qu'étudiante, tu te donnes beaucoup. Ça crée de la frustration, ça crée le épuisement. Tu vis presque des ruptures amicales. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, finalement?
C'est vraiment l'arrivée. Je me souviens même avoir regardé avant d'entrer. Donc, j'avais été prise à Sciences Po en bachelor. Et du coup, je pars de chez mes parents. Et donc là, je suis mais à fond. C'est-à-dire que je me précipite sur la première asso étudiante écolo. J'étais là sur sport environnement. C'est une question de vie ou mort. Il faut absolument que j'y aille. Donc, je donne tout. J'y vais, je rentre dans cet asso. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est le début des études. J'ai une énergie, mais je bouillonne parce que je découvre ce que c'est que d'être étudiante. Et en plus, ce que c'est que d'avoir d'autres gens autour de moi qui sont alignés sur cette préoccupation-là, qui disent « bah ouais, c'est un sujet ». Et donc à ce moment-là, il y a vraiment cette espèce de début de cristallisation de « ok, c'est un sujet, on est collectivement engagés ». Et donc j'y vais, je me donne, il y a la première année d'études, et la deuxième année d'études, c'est le moment où je commence à prendre un peu plus en maturité sur le sujet, sur les gens, leur engagement, avec un petit peu plus de nuances, plus de critiques, mais aussi c'est le moment où, en tout cas à ce moment-là, je suis passée dans les postes de responsabilité de l'asso, et pour le coup, là, je donne tout. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est ce qui est le plus important, ça passe avant les cours, ça passe avant beaucoup de choses. C'est un moment où je suis aussi très, très alignée, moi, dans mes valeurs. C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai le plus été zéro déchet, faire les invendus, être dans un esprit où j'essaie de tendre vers... alors, pas vegan, mais j'étais végé, et puis j'essayais de faire quand même vraiment très, 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 très attention. Donc, j'étais dans une démarche très, très poussée, qui était en décalage complet avec mes colocs, sachant qu'on était... J'étais en coloc avec mes amis que je connaissais depuis la première année, donc on était très proches. Mais ce sujet-là, pour le coup, je ne le partageais pas du tout avec eux. Mais pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à avoir cette espèce de décalage entre la manière dont je vivais mon engagement, qui pour moi était ce qui avait de plus important. En fait, à ce moment-là, en deuxième année d'école, c'était vraiment ce qui faisait que je me levais le matin. C'est que je savais qu'il y avait telle action de sensibilisation à mener. Il y avait vraiment du pain sur la planche. Parce que autour de moi, je voyais que les gens n'étaient pas du tout branchés sur ces questions-là. Et mes colocs étaient une illustration de ça aussi. Et en fait, c'était pas facile. C'était pas facile parce que dans ma hiérarchie de valeurs, c'était hyper, hyper important. J'étais prête à couper des heures de sommeil. Enfin, je me souviens de vacances de Noël où j'allais à la BU pour bosser, préparer les projets, des choses comme ça. Enfin, j'étais vraiment dans une dynamique qui va vers le don de soi, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, selon moi. Donc, c'était très intense. Et en fait, on commençait à vraiment plus se comprendre avec mes colocs. Et du coup, ça a été assez compliqué parce qu'il y a un peu une espèce de rupture de dialogue. Et qu'en parallèle, je sentais à ce moment-là qu'il y avait aussi un genre de fossé entre la majorité des étudiants sur le campus qui n'étaient pas forcément très préoccupés de ces questions-là, pour qui c'était un peu... c'était en arrière-plan, quoi. C'était sympa si on y arrivait à faire tel ou tel événement étudiant un peu durable, mais personne n'allait se mettre la rate au courbouillon pour faire en sorte que ce soit le cas.
Cette expression.
J'étais là, yes, elle est géniale, je suis trop contente de la sortir.
Elle a été calée, c'était son défi pour ce podcast. Pas du tout.
J'ai une passion pour les expressions à base de bouffe, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, il y avait un peu cette espèce de fossé immense entre l'attitude générale sur le campus et la petite poche d'étudiants très mobilisés au sein de l'association. Et ensuite, mes potes et ma sphère amicale qui n'étaient pas forcément branchés sur les mêmes valeurs, même s'ils pouvaient être sensibles à la question, mais en tout cas qui n'avaient pas le même ordre de priorité. Et en fait, on a tellement... Donc on était à deux à ce moment-là, être dans la même bande de potes et très à fond dans l'asso. Et on a été à fond jusqu'à la fin de notre mandat de bureau étudiant à la fin de l'année. Et à ce moment-là, on a finalement réussi à en parler avec notre bande de potes. Et ça a été le moment où j'ai senti qu'en termes de conséquences d'un trop plein d'engagement par rapport aux gens qui t'entourent, que j'étais passée pas loin de la rupture.
Ouais.
Que j'étais vraiment passée pas loin du tout.
Ça... Qu'est-ce que ça a généré tout ça du coup en toi ?
Déjà, ça m'a fait super peur. Ça m'a vraiment fait un gros coup où je me suis dit « Ah ouais !» Du coup, première pensée, c'est « Du coup, je peux être comme ça. » Tellement à fond que j'arrive plus à voir autour de moi, j'arrive plus à être consciente de ce qui m'entoure, j'arrive plus à percevoir les messages et les signaux autrement que par un genre d'agression, un genre de critique de ce que je fais. Et beaucoup de tristesse. Je me suis dit, mais ce qu'on porte comme valeur, comme combat, c'est des choses qui sont relativement universelles, qui veulent s'attaquer à une problématique qui touche chacun et chacune. Et du coup, ça me rendait très triste de me dire, ben, pourtant, ça peut être la cause de la rupture. Et du coup, on en a parlé. On en a parlé avec mes colocs. Je me souviens notamment d'en avoir parlé avec une de mes colocs. Et ça a un peu mis en moi une espèce de chien de garde qui reste, en fait, qui est resté et qui est toujours là depuis ce moment-là, qui est, oui, tu peux t'engager. Oui, tu peux être à fond parce que la cause, avec un grand C, sera toujours là, sera toujours super important. Et bien, en fait, si tu t'oublies, c'est la fin.
Ouais. Donc si on tire déjà un peu un bilan de ces premières années d'engagement, parce qu'en fait il y avait beaucoup de vécu finalement, ouais. Dans le sens beaucoup d'expérience en seulement, ces années de licence ont été très riches pour toi, d'apprentissage j'en suis sûre, donc si on en tirait peu des apprentissages, déjà je pense que là tu viens un peu d'en tirer un, de la cause est grande, la cause est noble, mais...
La cause est noble, mais d'abord il y a sa cause à soi, qui est s'écouter et ne pas... mettre en péril son propre équilibre.
Ouais.
Et ensuite, il y a la cause. Donc, c'est regarder soi, son support système, c'est-à-dire voir qui sont les gens qui comptent pour toi et les gens pour qui tu es une personne importante et ne pas les négliger. C'est en fait la base de la base de tous les rapports humains. Et je pense qu'il faut rester très conscient ou consciente de ça, même quand on est très à fond dans un engagement.
Ouais.
Parce que le jour où on est fatigué, le jour où on craque parce que c'est objectivement très difficile de décider de se battre pour des choses dont on sait que c'est beaucoup plus grand que nous, on aura besoin et on aura envie que ces gens soient là pour nous. Et pour ça, il faut qu'ils puissent encore nous comprendre et qu'on puisse encore les comprendre.
Ouais. C'est vrai que quand on en avait parlé déjà, tu m'avais dit à quel point tu avais été énormément d'énergie dépensée finalement pour la cause, jusqu'à ce que tu t'épuises. Et que finalement, un peu, tout ce déroulement, ça t'a permis de te concentrer sur l'immédiat et sur tes piliers. En fait, c'est ça, c'est juste d'avoir des piliers, une fondation stable pour pouvoir construire
c'est
dessus.
Ça. Et puis, cette question de l'énergie, elle m'a... En fait, en deux ans, j'ai vu comment est-ce qu'on peut se mettre un espèce de rouleau compresseur homemade, tout écolo qui soit, mais on peut se transformer en une espèce de machine à s'auto-épuiser. Et de voir que mes piliers, mon support système ne comprenaient pas mon épuisement, alors que je me sentais vraiment passer le dernier gros événement de l'année. Je me souviens qu'il y a eu une semaine où dans ma tête, je n'avais aucune énergie et je me sentais fatiguée, mais ce n'était pas que de la fatigue physique, c'était une grosse fatigue mentale. Et, Et il y avait beaucoup d'incompréhension et on ne se comprenait pas sur la nature de cette fatigue. Là où il y avait un peu une attente de mes potes de nous retrouver une fois que j'avais lâché un peu cet engagement. Et moi qui me disais, mais je n'aspire qu'à une chose, c'est dormir là. Donc cet équilibre sain, il faut le garder. Et on peut être hyper enthousiaste, mais il faut réussir à... Je pense qu'il faut réussir à rester lucide sur l'énergie qu'on met et savoir se dire, bah, en fait, ce sera toujours plus important, donc tu peux toujours pousser tes limites. Mais il n'y aura personne pour te dire que t'en fais trop. En fait, il n'y a que toi dans ton propre corps. Donc, les gens peuvent voir que tu te fatigues, mais si tu caches très bien, il n'y a que toi qui peux écouter, en fait.
Donc, il faut s'écouter.
Ça, c'est le plus gros message et le plus gros apprentissage de mes deux premières années.
Je vais juste faire un petit aparté et retourner dans le passé. Et tes quelques années de pause dans l'action, est-ce que, c'est une hypothèse que je te soumets, est-ce que tu penses, en plus de peut-être ta décision consciente de dire je me focus sur mes études, est-ce que tu penses que cette pause dans l'engagement, elle vient en fait d'un isolement de l'engagement ? Parce que quand tu présentes ton expérience universitaire, tu nous dis, en fait, je suis arrivée directement, je suis allée voir l'asso étudiante en environnement. Est-ce que si cette asso étudiante elle avait existé au lycée, finalement, en fait, t'aurais peut-être repris plus tôt ? Est-ce que cet non-engagement vient aussi de l'isolement que t'as vécu à cette époque-là ?
Je pense que c'est hyper lié. C'est complètement hyper lié. J'essaie de me replonger dans mon souvenir de Claire qui rentre au lycée, qui avait envie de faire 10 000 milliards de trucs. Clairement, s'il y avait eu une asso écolo, mais j'aurais foncé. Et j'ai foncé sur ce qu'il y avait de plus proche de ça dans mon lycée. Mm-hmm. Mais j'avais pas l'énergie de lancer quelque chose. Donc je me suis beaucoup engagée pendant mes années lycée, mais c'était sur d'autres sujets qui étaient plus socio-éthique, mais c'était pas sur les sujets environnement, simplement parce qu'effectivement il y avait pas. Donc je pense que ce point-là de est-ce qu'autour de toi il y a un tissu social sur cette question-là, c'est plus que clé. Le fait qu'il y avait personne autour de moi qui était sur ces problématiques-là, ça m'a pas poussée. Je me suis dit il y a personne, je vais pas me lancer toute seule, j'ai pas l'énergie.
Ça c'est le message que j'essaie de faire passer aussi à chaque fois. Entourez-vous, c'est super important pour vivre son engagement. Alors, on revient à la licence et à la fin de la licence.
Zoup.
On voyage beaucoup, là, aujourd'hui. C'est... après, y a... très vite, il y a le Covid qui arrive. Il y a aussi les pépites vertes qui rentrent dans ta vie. Il y a ton master. Il y a un peu tout ça qui se passe. Et tu as tes premiers stages dans l'impact, dans l'écosystème à impact. Qu'est-ce que ça change pour toi ? C'est une nouvelle dynamique. Enfin, c'est totalement différent, j'imagine, que tes années d'engagement étudiant.
Que se passe-t-il ? C'est beau comme changement à ce moment-là. C'était aussi plein d'interrogations. Peut-être pour revenir un peu sur la raison pour laquelle je suis partie dans l'écosystème impact et toutes ces questions-là. Je refais un micro-saut dans le temps où, juste avant de commencer mon master, j'étais en année d'Erasmus au Canada. Et c'était le moment où voilà, il fallait choisir dans quel master j'allais aller. Je me posais beaucoup de questions. Et c'est le moment où j'ai pris du recul sur les questions écologiques, environnementales, sur la manière d'approcher toutes ces questions-là. Et c'est un point qui a été... En fait, il y a un truc qui a été vraiment mes clés de chez clé. Et d'ailleurs, je remercie ma mère à ce propos, qui a eu le même conseil que toi, c'est il faut bien t'entourer pour savoir où tu veux aller. Et donc, c'est le moment où je ne savais pas forcément... Enfin, franchement, il y a eu ce moment pendant l'Erasmus où je ne savais pas du tout. J'étais hyper paumée sur quelle forme je voulais donner à mon engagement parce que cette année-là, en particulier... j'avais laissé tous mes engagements écolo. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'asso étudiante, il y avait juste ma tête et moi. Et quand je pense que c'est assez sain de se donner un moment de recul quand on a besoin de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, de se dire qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Et à ce moment-là, en tout cas, j'avais eu un peu ma dose du mouvement associatif écolo. Je trouvais pas mal de choses à redire sur la manière de fonctionner, avec parfois les défauts de l'horizontalité et tout un tas de questions liées. Et j'avais fini par passer des coups de fil sur les bons conseils de ma mère à des gens qui étaient soit des gens que je connaissais de près ou de loin, de la famille, qui étaient un petit peu portés sur ces questions-là et qui, par leurs propres questions, m'ont amené d'autres pistes. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, en fait, ça a l'air hyper sympa, l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, des startups à impact. Et je me souviens très bien de ce jour où, à force de coups de fil, je me suis retrouvée avec la banane jusqu'aux oreilles, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans ma tête et avait dit, c'est bon, tu as trouvé ta voie. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et j'ai lancé le chapitre sur lequel je suis restée pendant 2 années et demie, où j'étais hyper curieuse. Donc mon engagement, c'était lire beaucoup la presse un peu type Actu Environnement, Care News. J'ai commencé à me documenter, à faire de la veille, à regarder, passer mon temps sur LinkedIn, à chercher plein d'entreprises, etc. Et j'ai fait mon premier stage, c'était chez Hippli, à leur tout début. Ça fait un petit bout de temps, elles ont bien grandi.
Est-ce qu'on peut dire en deux mots colis, ce que fait ouais. Hippli
Anne-Sophie Léa, coucou. Elles font des colis réutilisables pour le e-commerce. Et trop belle expérience, parce que j'étais leur première stagiaire, c'était post-Covid. Donc c'était un stage en télétravail où j'étais allée les voir et c'était un peu mon premier contact avec la partie engagement mais dans la vie pro.
Ouais.
Et ça a pris une résonance hyper différente parce que d'un coup c'est devenu beaucoup plus concret et ça m'a rempli d'espoir de me dire ok, il y a des entreprises, il y a des gens qui lancent des boîtes, qui ont les mêmes idées, qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent se servir de cet outil-là pour atteindre ces valeurs-là, je trouve ça trop bien. Et j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai fait ce stage-là, j'ai commencé mon master, qui avait beau être tout management qui soit, il y avait quand même des gens qui avaient les mêmes valeurs. Et je me suis fait des amis qui sont aujourd'hui des énormes piliers, avec qui j'ai beaucoup parlé de toutes ces questions-là, d'environnement, des questions sociales. Bon, il y avait aussi des questions plus liées au genre et l'intersection de toutes ces questions-là sur l'ESS. Et donc, ça a vraiment fait mon écosystème et mon support système, disons, avec en plus la composante environnement, impact, transition écologique et solidaire. Et ça a été mais plus que clé, en fait, dans le fait que je sois saine d'esprit, malgré l'intensité de tout ça, quoi.
Donc, une belle nouvelle dynamique, finalement.
Une très belle nouvelle dynamique.
Et donc, maintenant, là, t'es dans la dernière année scolaire. Comment ça va?
Ça s'entend, là, que je panique.
Parce que, en fait, peut-être aussi, c'était cette période où il y a beaucoup de questions entre la licence et le master, ou en tout cas, dès qu'il y a des changements de vie comme ça, mais disons qu'après, tu rentres dans ton master et tu suis un peu le chemin. C'est ça un gros avantage des études. Donc, ouais. Parfois, on ne se rend pas compte quand on est en études, mais en études, tu as presque à seulement suivre le chemin qu'on te trace.
Ouais.
Même s'il y a plein de questions au fur et à mesure. Mais alors que la dernière année d'études, là, c'est à toi de tracer ton chemin complètement, vraiment sans aucun soutien. Et donc, c'est plus compliqué. Et donc là, c'est peut-être le grand retour des gros questionnements.
Ouais. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était très clair jusqu'à ce que j'arrive à peu près à cette dernière année. Je savais ce que je voulais faire, j'ai fait une année de césure, j'ai fait deux stages, je me suis trop bien entendue, j'étais à peu près sûre et certaine de ce que j'allais faire. Et puis j'ai un peu pris une espèce de porte dérobée, il y a eu une opportunité et je me suis retrouvée à pouvoir partir en Italie pour un double diplôme. Et ça m'a fait un peu comme au Canada, c'est-à-dire que c'est une année où j'ai lâché les engagements et où j'ai décidé de prendre du recul pour réfléchir à ce que j'avais fabriqué pendant 5 ans et qu'est-ce que j'allais faire ensuite. Et j'ai un peu le même phénomène de Ouh là là, mais je suis complètement perdue. Ça ne va pas du tout. Je dois sauver le monde, mais je ne sais pas comment faire. No jokes, c'est vraiment ce que j'avais en tête.
C'est un gros programme, sauver le monde.
Et c'est un gros programme. J'ai un peu appelé à la rescousse à droite à gauche et bah, justement, notamment une certaine Claire Fétrault qui a eu la très bonne idée de me dire mais t'inquiète pas Claire, tu n'as pas à sauver le monde et tu ne vas pas sauver le monde et personne ici en tant qu'individu ne va sauver le monde. Et c'est, ça a l'air vraiment très évident quand c'est dit comme ça. Mais quand t'as la tête dans le guidon, bah pas du tout.
Oui. Donc beaucoup de surresponsabilisation dans le milieu de l'impact.
Mais trop, beaucoup trop. Oui. Beaucoup trop. Surresponsabilisation, plus... Donc il y a à la fois cette pression extérieure de... selon le parcours que tu as fait, tu as une espèce de pression à faire quelque chose d'utile de tout ce que tu as appris. Et toi, de ton côté, tu as aussi cette pression personnelle, en tout cas moi, c'est ce que j'avais, de... je suis consciente de tous ces impératifs, de tout ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Je ne peux pas perdre une miette de mon énergie à autre chose. Parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui mettent leur énergie à faire exactement l'opposé. Donc, il faut y aller, quoi. Et donc, j'ai été complètement perdue à mort, enfin, perdue à 10 000. Et je savais franchement plus quoi faire. Il y a eu un stade où, pour le coup, c'était vraiment pas une période simple. Probablement la période la plus compliquée que j'ai eue par rapport à l'engagement depuis que je m'intéresse à ces questions-là. Au début, plus ou moins au début de mon année académique, peut-être vers octobre-novembre, c'était ça, ouais. Il y a eu des petits éléments déclencheurs, genre les scientifiques du GIEC qui nous disent que de toute façon 1,5, ben, c'est foutu, quoi.
Donc, pour contextualiser. Ouais, donc le GIEC... Le groupe
international d'experts sur le climat qui produit des merveilleux rapports qui sont notre plan pour réussir à se sortir de là avec tout ce qu'il faut pour que les décideurs et les décideuses politiques et économiques puissent mettre en place les bons changements dans les systèmes.
Ouais, voilà, et donc c'est aussi eux qui font les scénarios qui nous disent qu'il faut éviter de dépasser ce nombre de degrés d'augmentation parce que sinon il risque de se passer ça. Et effectivement, qui nous ont dit il n'y a pas longtemps, bon, bah, les 1,5, les gars, degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, on va sûrement y passer.
Donc, voilà, les experts qui nous disent que globalement, on fonce droit dans le mur, le fait qu'un 30 octobre, j'étais en t-shirt et lunettes de soleil pour mon anniversaire, ça ne m'était jamais arrivé, je me suis dit, bof. Donc, il y avait vraiment des signes extérieurs qui n'étaient pas du tout rassurants. Couplé à ça, j'avais l'interrogation montante de mais qu'est-ce que je vais faire après l'année prochaine, il n'y a plus de chemin tracé. Et là j'ai vraiment paniqué. J'ai paniqué et j'ai eu un énorme trou, une espèce de chute de l'étincelle qui d'habitude est là et la flamme sur laquelle je me repose pour m'engager, mais là je n'y croyais plus. Enfin, je voyais plus comment on allait avancer. Tout ce que j'avais pu faire comme expérience, comme stage, je me disais, mais de toute façon, à côté de tout ce qu'il y a à faire, ça sert à rien, c'est pas la bonne manière. Enfin, il y avait vraiment tous les signaux, je lisais tout, version rouge, ça va pas. Et ben, carte magique, j'ai sorti mon joker support système. Et j'ai eu des bons conseils de lecture. J'ai eu des bons conseils, comme ce que Claire me disait, de « tu vas pas sauver le monde », et aussi des conseils relatifs à soi, le fait de prendre les choses, chaque chose en son temps, et surtout le fait que c'était pas grave de pas trouver « the best job », parce qu'on en change, en particulier notre génération, et qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a rien de parfait. Donc ça a été le moment vraiment compliqué, vraiment pas du tout agréable, honnêtement.
J'imagine.
C'est le moment où tu te dis, mais là, je sais même plus comment faire.
Mais maintenant, tu en es donc sortie de ce moment.
Et je suis sortie de là, heureusement, parce que sinon, ça aurait été terrible. Non, je suis sortie de là à force de bons conseils et aussi d'un petit peu de recul. Je me suis un petit peu remise aussi à lire. C'est le moment où j'ai un peu lu sur la décroissance. J'ai commencé à me reprojeter dans une perspective où il y a des gens qui continuent à creuser, que oui, rien n'est parfait, mais on avance, on trouve quand même des choses. Donc tout ça m'amène au deuxième semestre. Et je ne sais toujours pas exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément identifié quel boulot, quelle boîte, quelle organisation, etc. Mais j'ai un peu essayé de segmenter les choses pour ne pas paniquer. J'ai essayé de partir de ce que je savais, d'identifier ces points-là, un peu comme si j'avais fait voilà, ma checklist de quelles sont mes certitudes. J'ai mis en surligné jaune, je sais que voici toutes les valeurs pour lesquelles je veux bosser. Et ensuite, je vais un peu plus essayer de m'écouter, de voir ce que j'avais apprécié dans mes expériences, dans mes stages. Et donc, j'ai un peu plus affiné et j'ai fini par réussir à trouver ce que moi, j'aimais vraiment faire au quotidien. Ce que j'aime faire, ce qui me fait me lever le matin, ce qui me donne mon énergie, ce qui fait que je sais que je suis à la bonne, au bon endroit, que je sers à quelque chose, que je suis utile. Donc j'ai identifié le très proche de moi, ce qui fait que je ne vais pas m'épuiser, et le très macro, ce qui fait que je sais que je suis alignée. Et donc ça, c'est un peu c'est mon horizon, j'ai mon phare très très loin, et puis j'ai le gouvernail. Je ne sais pas encore exactement quelle route je vais emprunter, mais j'ai relativisé sur le fait que n'y a pas une route, il y en a plein, que ce sera aussi des affaires de hasard, de rencontres, d'opportunités, et que c'est pas grave si je sais pas, et que si déjà j'arrive à naviguer avec ces espèces d'étoiles polaires de mes valeurs et qu'est-ce qui me fait du bien, quelle est mon énergie, je pense que ça devrait aller. En tout cas,
mais c'est beau ce que tu dis. Quelle stratégie ? C'est la stratégie 2. Ok. Bah, trop bien.
Voilà l'horizon.
Et finalement, aujourd'hui, par rapport à la Claire de L1, comment tu penses que ton état d'esprit il a changé ?
Je suis moins dans un bouillonnement fou furieux.
Ouais.
Et plus dans un état d'esprit. Je qualifierais mon état d'esprit de plus déterminé, mais de plus serein.
C'est drôle que tu utilises le mot déterminé parce que quand on t'écoutait tout à l'heure, on aurait pu penser que le moment où tu faisais 40 heures par semaine en plus de tes cours pour monter tes événements à Sciences Po, t'étais au plus déterminé que tu pouvais être. Et finalement, non, tu te définis aujourd'hui plus déterminé que tu aurais pu l'être en L1, L2.
Alors, pour une raison, et c'est peut-être parce que je joue un peu sur le sens du mot déterminé, j'avais un engagement indéterminé, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire des choses, mais je savais franchement pas exactement ce que je faisais.
Ok.
Là, je sais, j'ai à la fois la détermination de je veux et je vais m'engager, je le sais, et c'est plus précis. En fait, je sais pourquoi. Je me suis posé le fameux why des pépites vertes. Je sais quel est mon pourquoi à moi. Je sais ce qui me fait bouger. Je me suis posé cette question de qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me donne envie de sauver tout ça, qu'est-ce qui me donne envie de me lever. En L1, j'avais envie de me lever, mais je savais pas forcément dans le détail pourquoi.
Ouais, c'était plus des émotions de panique presque. En fait,
c'était très émotionnel, c'était passionnel.
Ouais, c'était.
Et du coup, c'était très intense. C'était beaucoup soit de la panique, soit très intense. Beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de tristesse, de la déception, des espoirs. Je me souviens que c'était des montagnes russes. On réussit à faire un tel projet. Ah, on a un stop. Ah, peut-être. Ah, peut-être pas. C'était épuisant. Là, bon, y en a qui diront « Ah, bah, t'es devenue pragmatique, c'est terrible. » Peut-être. Mais la partie... état d'esprit serein, c'est aussi le fait que j'ai appris à écouter, enfin en tout cas j'espère et je continue et j'espère que je continuerai toute ma vie, mais j'apprends à m'écouter, j'apprends à me dire ok, je peux faire tant que je m'écoute, tant que tant que la machine qui me fournit le carburant est nourrie, qu'elle est reposée, qu'elle est satisfaite et que je m'autorise aussi un droit à l'erreur et un droit au repos et un droit à ne pas faire et à ne pas être tout le temps à fond.
Ouais, c'est comme si maintenant tu t'étais mis, en fait, on a une multitude de... Il y a plein de signaux autour de nous, tout le temps, constamment. Mm-hmm. Et avant, peut-être qu'à certains moments dans nos vies, on a envie d'écouter seulement les signaux extérieurs qui nous disent il faut agir, urgence, urgence, urgence. Et à un moment, tu te poses et tu te dis, ok, mais en fait, il y en a plein d'autres, des signaux. Et si je les écoutais tous, et là, c'est là que tu prends ce temps de t'écouter toi, quoi, les signaux que toi, tu t'envoies déjà.
C'est exactement ça. Et il y a... Une autre chose qui a changé, je ne sais pas si c'est toujours de l'ordre de l'état d'esprit, mais je pense qu'en L1, j'avais pas forcément la même conscience de moi et j'avais pas conscience que, typiquement, le fait de m'épuiser, quelque part, c'était aussi négatif dans le sens où j'allais avoir besoin d'énergie de la part des autres parce que je m'étais épuisée. Et aujourd'hui, je sais que c'est hyper important, en fait, en particulier dans les engagements, dans les mouvements de personnes qui s'engagent pour l'écologie, pour l'environnement ou d'autres, le fait que si tu veux servir un engagement collectif, il faut déjà s'assurer que toi, tu n'as pas besoin de l'énergie en plus et que du coup, tu ne vas pas être dans une forme de contre-productivité.
Ouais,
prendre soin de soi, c'est exactement ça, c'est la base pour prendre soin des autres.
Et c'est aussi ultra nécessaire pour tenir le marathon, de ne pas partir en sprint.
Ouais, exactement, de ne pas s'épuiser,
que ce c'est soit
émotionnellement ou physiquement, c'est le plus important.
Est-ce que pour conclure un peu tout ce qu'on vient de se dire... est-ce qu'on aurait... Alors, on en a donné déjà plein, je pense. Mais est-ce que tu as peut-être un résumé ou peut-être des nouveaux conseils à partager aux personnes qui nous écoutent justement, et qui sont comme toi, et comme nous tous et toutes, sur ce chemin de l'engagement, pour qu'on le vive au mieux.
Je crois qu'à la fin, déjà, je pourrais donner plein de conseils. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment venir et me poser des questions, mais n'hésitez pas, je serais ravie.
Elle a trouvé sa voix, coach de vie.
Ce que j'avais en tête, c'était le fait que dans pas mal de moments, ce qui finalement fait envie, donne envie et même personnellement te permet de te raccrocher, c'est de se rappeler de ce qu'on aime, de ce qui nous permet de se ressourcer. C'est ma meilleure amie qui m'avait dit ça. Si t'as besoin d'aller nager dans les lacs, voir les montagnes, pour te ressourcer, fais-le. Et de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qui nous fait rêver, c'est hyper important. Et prenez le temps d'être conscient de vos imaginaires, de ce qui vous fait vibrer. Et dans les moments où, à titre personnel, on n'a plus la motivation, qu'on a quelqu'un face à nous qui l'a pas, je pense que partager les imaginaires et ce qui nous fait vibrer, ça peut remettre beaucoup d'énergie dans la balance.
Et ça peut être des choses ultra variées, c'est-à-dire que là, par exemple, on a eu des exemples très proches de la nature, mais ça peut être aussi même des choses, parfois, juste aller dîner en famille, aller boire un verre avec des amis, faire un sport que vous aimez. Enfin, ça prend plein de formes.
Mais ce sera
il faut savoir identifier. Tu nous as spoilé ta forme à toi en nous donnant ton exemple. Aller voir la nature.
Ça joue beaucoup. Je pense que si je suis très, très précise, c'est être connectée avec les gens qui sont importants pour moi dans la nature, de partager cette beauté-là. C'est ce qui me remplit d'énergie quand j'en ai plus. C'est ce qui me donne envie d'y croire et de me lever tous les matins.
Trop bien. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claire, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir partagé un petit morceau de ta vie et de tes apprentissages.
Avec grand plaisir. Merci pour cette très belle conversation. qui était très agréable et très bien menée. Bravo Maëlle, et un gros merci.
Je crois qu'il y avait une suite, un gros merci. Câlin, salutations au soleil pour finir.
Salutations au soleil pour finir.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les différentes ressources mentionnées dans la description. Si cet échange vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast des Pépites et aller liker, noter, commenter sur Apple Podcasts. Un prochain épisode arrive bientôt. D'ici là, vous pouvez retrouver les Pépites Vertes sur Instagram et sur LinkedIn. À très vite !